Le spectacle va commencer. Et ce spectacle est unique.
Principe actif.
Acheter. Le mythe.
Un spectacle enfin digne de l'univers.
Ça sera un spectacle, crois-moi.
Inutile de retenir vos places. Vous serez tous en première loge. Sensationnel, formidable. Ça me rappelle ma jeunesse.
Ça commence bien.
Et le spectacle continue.
Et le spectacle continue aborde généralement les artistes issus de la scène musicale, mais cette fois-ci je vous propose de mettre d'autres formes d'art à l'honneur. Un saltimbanque adepte du doublage vocal, des explorateurs de la vie en sous-sol, un romancier à la campagne, un artiste peintre portraitiste, ainsi qu'une quête incroyable de la Reine de la Nuit. Pour cela, j'ai fait appel à Emmanuel Lautréamont qui animera un multiplex depuis son duplex en lien avec plusieurs correspondants à Rouen et à Paris.
Et le spectacle continue.
Soyez les bienvenus dans la vie en multiplex.
Bienvenue dans votre émission La vie en multiplex. On va se balader dans le grand multiplex de l'existence.
Je fais mon émission depuis mon duplex. Et dans lequel j'ai le luxe d'avoir des fenêtres, alors j'en profite pour ouvrir mes fenêtres à fond. J'écoute le bruit des bagnoles aussi, le bruit des enfants qui passent parce qu'il y a une école pas loin, mais j'en ai rien à foutre, ok. C'est ma vie dans mon duplex, et vous, vous êtes dans la vie en multiplex. Premier duplex de cette émission La vie en multiplex, nous allons retrouver un correspondant. C'est Thomas, Thomas qui doit se trouver normalement sur les quais de Seine à Paris. Est-ce que Thomas, tu m'entends?
Oui Emmanuel, je vous reçois, cher Emmanuel.
Super, vous êtes où?
Je suis au bord de la Seine.
Super, sur les quais de Seine à Paris. Un bel endroit, hein. J'imagine que vous avez du beau linge autour de vous.
Alors je vois Jeanne Moreau passer.
Génial.
En fait non, c'est pas Jeanne Moreau, c'est un bateau qui soi-disant se prendrait pour Jeanne Moreau.
Probablement une péniche baptisée en hommage à la grande dame du cinéma français. En tout cas, c'est bon signe, hein, ça sent bon. J'imagine que vous êtes avec notre invitée, la reine de la nuit, Béa.
Elle n'est pas là.
Ah.
L'invitée n'est pas là.
Elle s'est décommandée.
Bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un quiproquo en fait, je crois. Donc je crois qu'elle s'est trompée de quai. Parce que je vois quelqu'un en face qui me fait des grands signes. Il y a eu même un appel de phare ou un appel d'un klaxon, mais je crois que c'est... Alors je sais pas si c'est cette personne-là. Est-ce que je traverse la Seine pour elle ou pas?
Allez-y, traversez la Seine. Retrouvez Béa. Et pendant que vous traversez, que vous effectuez votre odyssée, on va tenter un autre duplex avec un deuxième correspondant.
La vie.
Un multiplex.
La vie.
Un multiplex.
La vie.
Un multiplex.
La vie
en multiplex.
La vie
en multiplex.
La vie.
Principe actif,
c'est la vie.
HDR.
La vie
en multiplex,
c'est la vie.
Allô Hubert, qu'est-ce que vous faites dans le duplex là?
Allô, oui.
Vous êtes avec qui? Vous êtes avec quelqu'un de bien?
Avec qui? Ben là, je suis avec moi-même pour l'instant, mais je vais aller à la rencontre d'un comédien, Olivier Renaud.
J'adore la comédie, dites-lui que j'ai vu tous les Chaplin.
Je suis encore dans la rue, je peux pas complètement commencer une conversation. Donc là j'approche de la porte de la maison d'Olivier, puis bah je vais simplement frapper.
Allez-y, frappez, faites-vous plaisir. Oh allez-y, hein. Bastonnez cette porte Hubert.
Oui. Dites-moi, vous avez frappé théâtralement là?
Oui, je sais pas, ça m'est venu comme ça parce que je savais que c'était un comédien qu'on venait voir, entre autres.
On sent que cette aventure commence bizarrement.
Je suis très heureux de vraiment vous avoir rencontré.
Retrouvez-les toujours présents avec vous.
Olivier, d'où viennent ces voix?
Alors il faut savoir, d'abord je fais beaucoup de voix institutionnelles, parce que je suis un baryton Martin, j'ai une voix qui rassure.
Écoutez Martin, Olivier plutôt, comment tout cela a commencé?
En fait, il y a fort longtemps, je faisais des auditions, c'était pour la classe, Bouvard, etc., comme on fait tous. Quand on est comédien, on sort des écoles, moi c'était le conservatoire. Et puis un jour, je suis tombé sur une personne dans la rue qui me dit, écoute, voilà, si t'es intéressé, t'as une petite voix, bon, j'avais 21 ans, et puis il me dit, voilà, il y a un studio improvisé d'enregistrement, et là j'ai retrouvé Las Palès et Chevalier qui faisaient aussi, eux, des voix. J'ai commencé à faire des voix, et puis si bien que... Après, on m'a appelé pour faire des voix, et puis j'en ai fait en partie un métier, parce que c'est pas mon métier premier, hein, bien évidemment. Hein. C'est un complément, comme on fait tous en tant qu'intermittent du spectacle.
Justement, est-ce que tu peux développer les autres aspects de ton métier d'intermittent, d'artiste en fait? Qu'est-ce que tu fais d'autre?
Je suis aussi, comme on dit, comédien, je monte sur les planches. C'est la petite sonnerie vélo, vous entendez en arrière, c'est mon portable. J'aime beaucoup le vélo, hein.
Alors Olivier, je propose que maintenant nous quittions le vestibule pour aller vers la pièce que vous avez aménagée à l'intérieur de votre domicile. Et nous voici donc dans cette salle couleur avec ce rouge...
Rouge Montmartre. Voilà. Rouge Montmartre avec cantonnière Carthage, ça s'appelle. Et puis, tout a été remis. Enfin, fut un temps, j'avais un petit café-cirque, le Bergamini Circus. Et puis, la roue tourne, j'ai tout perdu, je me suis retrouvé à la rue, etc. Comme beaucoup, vous savez, d'entrepreneurs de spectacle. Indépendant, je le précise, hein, je signe. C'est vraiment c'est une volonté, vraiment, hein, de faire quelque chose avec ses propres moyens, sans aide des autres, mais juste avec l'aide, en fait, de tous les comédiens, de tous les artistes qui peuvent venir.
Olivier, pouvez-vous nous raconter comment le public vient à vous ?
Je vais souvent dans les cafés, je me saoule à gogo, et puis je vais souvent dans les cafés, et puis les gens que je trouve sympathiques, hein, c'est comme ça, ce sont mes critères, on a tous des critères. Et puis à la suite, une fois par mois, je fais aussi une soirée où je les invite, ces gens, des gens de l'extérieur que je n'ai jamais vus, avec d'autres que je n'ai jamais vus, et ils se connaissent dans ce lieu, donc je prends environ 30 personnes, et puis ils découvrent le lieu, et à la suite de ça, je peux parler d'un spectacle, de ce qu'il va y avoir ici, ou ailleurs d'ailleurs, à Rouen, chez des particuliers, ou voilà, dans des scènes. Voilà.
Olivier, j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez une anecdote, peut-être qui vous a marqué avec le public que vous recevez.
Le dernier, là. Il y a une personne qui voulait absolument coucher avec moi, quoi, sur scène. Enfin, c'était... Voilà, bon. Et un peu surpris, c'était pas prévu du tout. Bien que je fasse des rôles de composition des fois. Voilà, c'était une... C'est assez marrant, quoi. Ouais, ouais.
Comment tu réagis, du coup?
On continue à jouer, bien sûr. Et puis, on en profite, on surexagère un petit peu le personnage. Et puis, ça fait rire, parce qu'il faut qu'on soit toujours cette vedette à l'américaine. Hein, et puis, qu'on soit pas happé, parce que c'est difficile. Pour ceux qui m'entendent, qui montent sur scène, ils le savent, que ce soit des musiciens, comédien ou autre, eh bien, de temps en temps, on peut se faire happer par une personne ou plusieurs personnes dans le public qui prennent le spectacle et le dévalorisent le spectacle. Alors, il faut faire très attention, c'est juste une question d'équilibre. C'est un métier aussi humoriste. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. C'est en fonction des régions, on voit bien qu'il y a des gens qui acceptent ceci et d'autres qui acceptent cela.
Je te remercie de nous avoir accueillis chez toi, dans ce bel endroit qui est vraiment un endroit de rencontre, avec cette belle générosité, et je trouve que c'est magnifique de voir ça aujourd'hui. Je te souhaite bon vent, oui. Et puis à bientôt.
Bon, je vous remercie vraiment d'être venu, c'est super gentil.
Il est temps de rendre l'antenne à Emmanuel qui va poursuivre le multiplex.
Merci Olivier Renaud, merci Hubert, un premier duplex réussi, c'est cool.
La vie en multiplex. La vie en multiplex. La vie. Principe actif. C'est la vie.
HDR.
La vie
en multiplex.
C'est la vie.
On va tenter de retrouver Thomas qui normalement est sur les quais de Seine avec Béa qui est présentée comme la reine de la nuit, la reine des flonflons, la reine des cotillons. En tout cas, une jeune femme qui met le feu partout où elle passe. C'est comme ça. Thomas, que vous me l'avez vendu. L'avez-vous retrouvé?
Oui, je suis avec Béa. Évidemment, je suis avec Béa. Je suis avec Béa et Béa est extraordinaire. Elle est là.
Oh, merci beaucoup.
Béa ?
Non. Je m'appelle Adriana.
C'est bien ce que je pensais. Vous êtes Béa.
Ah, je suis Béa ?
Voilà.
Ah, j'ai envie de découvrir. Je suis Béa.
C'est ça qui est beau. C'est ça qui est une révélation.
Oh, quelle révélation aujourd'hui.
Voilà.
Les paillettes et les confettis.
C'est ça. Et les confettis aussi. C'est tout. Tout est là. Tout est là.
Oh, alors je vais faire un tour. Je vais tourner sur moi-même.
C'est ça. Voilà.
Merci.
Merci.
Écoutez Thomas, merci d'essayer de sauver les meubles. mais je crois que les auditeurs ont comme moi entendu que votre BA s'appelle en fait Adriana.
Je suis désolé, Emmanuel, je suis désolé.
Ce n'est pas ce qui était convenu dans votre contrat.
Mais je vais la trouver. BA est sûrement quelque part. Elle est sûrement en train d'errer sur ce quai. Peut-être sur un skate, peut-être sur un transat. Je vous promets que je la trouverai.
Le skate roller, n'oubliez pas que c'est la reine de la nuit. Donc a priori, essayez plutôt les guinguettes. Bon courage, on vous retrouve tout à l'heure, merci. Le soir, la nuit, l'obscurité, l'abîme sont aussi des choses que nous traversons dans la vie, dans le grand multiplex de la vie. Et l'ami Philippe est parti en duplex dans les catacombes. Il est parti avec des cataphiles, avec Cathy, avec Alex. Normalement, on va le retrouver. Il porte des bottes en plein Paris.
Bah, j'ai trouvé une fine équipe de deux irréductibles qui y vont toutes les semaines. Et donc, on va s'y rendre. Là, on est en route.
Ok. Eh bien, écoutez, je vous accompagne. En tout cas, par la pensée. Vous savez que la visualisation permet de grandes choses. C'est le docteur Feng Shui, maître Zhao Zhen, qui me l'avait enseigné. Pour réussir son objectif, il faut d'abord les visualiser. Donc, Philippe, avant de descendre dans les catacombes, vous allez vous imaginer en train de pouvoir descendre dans les catacombes à 15 mètres et de pouvoir capter tout ce que vous allez sentir de vie, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vie, vous serez entouré de mort. Et bien, toute cette petite vie, vous allez la rentrer dans votre téléphone et boum, elle va se jaillir de ça, cette vie, et pour aller regorger, rejaillir dans le monde.
Alors on y va, on est dans une galerie sous les rues de Paris.
Dans le 14e arrondissement.
Et je suis cette fine équipe.
Je vais couper ma musique.
De donner une âme et lieu.
Donc on en est tous responsables, que ce soit au niveau des déchets, il faut toujours descendre avec des sacs poubelles. Et jamais rien laisser derrière nous, parce qu'ici, il n'y a personne qui va passer derrière. Tout un chacun doit être responsable des lieux ici, c'est le patrimoine de la France.
Est-ce qu'il y a des gens qui restent plusieurs jours
dans
ces endroits-là?
Tout le week-end, des fois. En fait, ils perdent la notion du temps. À Paris, on souffre énormément de pollution sonore. Et donc, les gens ici viennent pour le calme. Tous nos sens sont en éveil parce qu'on n'entend strictement rien. La température ici est constante. Été comme hiver, il fait entre 10 et 14 degrés.
Est-ce que tu as une idée de à combien de mètres sous-sol on est là à peu près?
Je dirais entre 14 et 12 mètres.
Ça représente un immeuble de combien d'étages à 14 ou 12 mètres?
C'est un étage, c'est 2,20 mètres. Ouais. 2,25 mètres.
Donc on est. C'est comme si on était au cinquième sous-sol. Quoi. Et c'est qui les gens en fait qui aiment aller en dessous? Est-ce qu'on peut les décrire un peu?
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici en dessous, on est tous égaux. Qu'on soit PDG, cadre ou punk à chien. On est tous crades et donc il n'y a plus de différence sociale ici. Donc
ça ne se dit même pas en fait, on ne sait pas à qui on a affaire.
On peut faire connaissance, je sais que certaines personnes ont trouvé leur âme sœur ici. C'est comme à la surface, je dirais, on peut faire des rencontres.
Donc nous sommes toujours dans les profondeurs de Paris, éclairés à la bougie.
Je vous ai montré tout à l'heure la salle qui était la plus connue, la plage.
Et là où il y avait du sable.
C'est ça, c'est pour ça qu'elle a ce surnom. On a vu la salle Sarko, près de la rue du Lunin, qui a été construite à la base pour échapper à la police, et qui a ensuite été aménagée. On a traversé le passage où il y avait de l'eau.
Il n'y en a pas eu plusieurs passages où il y avait de l'eau, non?
Okay. Ou alors j'ai de mauvais souvenirs.
Ouais, je sais pas.
Et là, on est à la rue Commandeur, et donc à la salle qui s'y trouve.
Quand tu dis pour échapper à la police, qu'est-ce que tu entends par là?
Parce qu'évidemment, ce qu'on fait là, c'est pas légal. Et donc, dans les 280 km de réseau, il existe une brigade qui est chargée donc, de faire de la prévention. Et donc, il y a une amende à la clé si on se fait attraper. Ils sont aussi passionnés et ils sont là pour faire de la prévention. Donc, ils vont s'assurer qu'on ne dispose pas de drogue, qu'on n'est pas là pour dégrader. Donc, je le mentionne, c'est important. On descend toujours, nous, avec des sacs poubelles. On ramasse les déchets qui s'y trouvent. Comme je peux plus le répéter, on est tous responsables des lieux ici. Et donc, on ne vient pas pour dégrader les lieux, mais pour le faire vivre.
Et quand tu parlais des salles, il y a des noms, salles du commandeur, je ne sais plus. Là.
C'est... Exactement, donc on appelle ça des curiosités. Donc,
pourquoi on les appelle comme ça, en fait?
Parce que chaque salle a une caractéristique. Donc, on a mentionné la plage. La plage, parce que son sol ressemble à du sable. Donc, il y a certains passionnés qui avaient même laissé des coquillages. Donc là, dans le coin, on a vu la cordonnerie. Donc, il y avait de nombreuses chaussures et puis un atelier de cordonniers. Il y a également la salle des lanternes avec de très jolies lanternes, le château, la salle des fleurs, etc. Donc chaque salle va avoir un surnom en fonction
De sa spécificité.
Exactement. Et donc, c'est à nous, Cataphile, de faire vivre le lieu. Et donc, si on décore une certaine salle d'une certaine manière, peut-être qu'un jour, elle aura un nom.
Est-ce que tu peux nous expliquer, juste avant qu'on démarre, la musique que tu nous passes
Donc, il y a notamment la bande-son originale de la super série d'animation française Last Man. Il y a certains sons tout droit sortis, on dirait, de films d'horreur. Et donc, je pense que ça participe un peu à l'ambiance.
D'accord. Et puis, en même temps, nous, ça nous fait un repère pour savoir où aller dans les galeries pour pas nous perdre.
Exactement, c'est pas à suivre le lapin blanc, mais à suivre la musique.
D'écouter un extrait de la bande originale de Last Man, l'excellente série d'animation de Jérémy Perrin, un thème composé par Avril et Monhaie, une musique underground qu'écoute, vous l'avez entendu, au 5e sous-sol de Paris, Alex, Cathy mais aussi Michael, et nos amis continuent avec Philippe, notre reporter, à explorer le 5e sous-sol.
On peut passer par là mais il y a trop de l'eau. Là-bas on passe par cordonnerie mais c'est plus long.
Vous préférez quoi? Bon, on a déjà passé par là non?
Ouais.
Vas-y là-bas là.
Ok.
Il y a trop de choses.
Ah ouais non mais alors là-bas. Genre moi je veux bien hein. Mais c'est
pas par la cordonnerie et après c'est à gauche.
Il y a un squelette dans le mur, carrément.
Il y a même de la moisissure.
Et des mâchoires accrochées, suspendues à.
Et il y a de la moisissure
à l'intérieur.
Ouais, une sorte de mousse.
Il manque quelques dents, mais il y a quasiment toute la dentition.
Ouais.
C'est les dents devant qui
les
manquent.
Les molaires.
On ne sait pas de combien datent ces os. Voilà, on va revenir vers le tunnel où nous étions. Je crois que là, on est perdu.
On est là.
Oui. Donc on va aller à droite. Mmh. Ensuite ici il y a la salle Pi qu'on peut aller voir.
Ouais.
Après on redescend et puis on va aller là.
Et après on descend.
Attends.
Encore. Et ouais. Il y a le cabi.
C'est pas là par là.
Il n'y a pas le choix je crois. Parce que sinon c'est bouché. On a fait une petite boucle.
Oh. Il semblerait bien.
Je sais pas, j'ai déjà vu ça, c'est pas
du couchant.
Côté du couchant, on est déjà passé.
Mmh. Parce qu'il y a plusieurs plaques.
Ah c'est peut-être.
Le cabi, il est tout droit, ensuite il y a un couloir très tout droit, et ensuite on y sera.
Oui.
Alors, je sais qu'en dessous, il n'y aura plus aucune plaque. On pourra plus se repérer.
Donc il y a plusieurs niveaux, en fait.
Exactement, oui. Exactement.
Donc là, on est au niveau de référence, c'est ça? Enfin, je ne sais pas s'il y a un niveau de référence, mais...
Non, on est, pas, on est au second niveau. En fait, plus on descend, bah, moins il y aura des plaques de rue. Ça, ce cochon-là, il est très connu. On raconte que c'est le premier graffeur qu'il a fait. On ne sait pas si c'est une imitation, mais si c'est un original, ça a plus de 200 ans, je pense. Donc le tout premier street artiste va s'amuser à faire cette figure-là.
Bon, bah, on va rester ici.
On est bien, là. Je suis bien.
Ah ouais.
Ouais.
Tranquille.
Okay. Bon, Philippe, on vous laisse dans vos catacombes. Si ça se passe mal, je m'occuperai de votre famille. Les catacombes sont des anciennes carrières. Nous avons remonté des minerais, calcaire, qui a fait Paris. Et Paris, maintenant, ce sont d'autres personnes qui la font. Paris est faite maintenant par les nightclubbers. Ce sont eux qui assurent une renommée internationale à notre belle capitale. Et normalement, Thomas est avec une reine de la nuit. Thomas, avez-vous enfin réussi à retrouver Béa ?
Oui, ça y est, Emmanuel, j'ai trouvé Béa. Bonsoir, Béa.
Bonsoir.
Merci de nous avoir retrouvés.
Oui, tout à fait, c'était un peu ma signature. Et c'est un côté très, très girly, très, très paillette, très, très bling-bling.
Non,
c'est...
mais qui êtes-vous, là ? Vous n'êtes pas Béa. Vous êtes un usurpateur.
Si, si, je suis bien Béa. C'est pas parce que j'ai un nom de fille que je peux avoir une voix de fille. J'ai une voix masculine et c'est moi. Enfin, je suis bien Béa, en tout cas.
Voyez, Emmanuel, voyez que j'ai trouvé Béa. Voilà.
Thomas, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je suis désolé.
Vous êtes en train de nous planter l'émission.
Je suis fatigué, je suis épuisé.
Je vous rappelle, dans 10 minutes, ça sera votre dernier essai. On va tenter une connexion avec Hubert. Hubert, est-ce que tu me reçois ? Non, je n'ai pas de signal. Philippe, toujours dans les catacombes, certainement. Je n'ai pas de signal non plus. Thomas, bah, pour l'instant, rien. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Pour l'instant, on n'a plus personne. Je me retrouve en carafe. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de duplex. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve en carafe ? Eh bien, dans un restaurant, quand on attend, ce qu'on fait, on sort son smartphone et puis on regarde les actualités, on regarde son fil Facebook. On est en duplex avec la vie, avec l'altérité, mais ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas de smartphone sur moi. Par contre, j'avais prévu une pastille de secours au cas où il nous arrivait une telle carabistouille. Et la carabistouille, c'est maintenant.
Le soleil brille aujourd'hui sur Lumberton, la ville du bois. Alors, à vos tronçonneuses, vous êtes à l'écoute de BOIS-FM, la voix de la ville du bois. Quand l'arbre s'abattra, il sera exactement 9h30. Il y a du sapin sur la planche, alors au boulot!
Donc là, on entend une moissonneuse batteuse.
La campagne, je pensais que c'était calme.
La campagne, c'est pas calme. Là, ce qui est calme, c'est les lotissements. Tu sois à la campagne ou en ville, c'est le lotissement est calme. La campagne, t'as les moissonneuses batteuses, t'as les chiens, t'as les gens qui taillent leur haie. Il y a des voitures à la campagne.
Est-ce que tu pourrais pitcher ton livre en quelques secondes ? La trame.
C'est un homme qui rentre chez lui tard le soir et qui, sans faire exprès, tue une jeune femme qui était là, au milieu de la route, enfin d'une toute petite route, qui ne sait pas. L'homme ne sait pas quoi faire du corps, il le met dans son coffre. Et il découvre le lendemain que cette femme a été visiblement enlevée par une espèce de tueur en série. Et donc il va vouloir rechercher ce tueur en série et refourguer le corps au tueur avant les flics. J'en dirai pas plus.
Ça se passe chez nous, en Amérique.
C'est ça.
C'est paradoxal, hein, ton livre, ça se passe dans la campagne, et le titre c'est quand même « Je serai le dernier homme ».
Ouais.
On n'imagine pas forcément l'apocalypse à la campagne, non. Au milieu des bêtes.
Non, mais lui c'est dans sa tête qu'il pense qu'il va être le dernier homme. C'est-à-dire que... Pour lui, il est le dernier homme de avant ce que... Avant la barbarie, avant ce que Macron et compagnie appellent le Nouveau Monde. Ce qui est complètement con. Enfin, Christophe Colomb appelait déjà l'Amérique le Nouveau Monde. Donc tout le monde appelle le Nouveau Monde au bout de 30 ans. Quoi, c'est le Nouveau Monde. Alors qu'il est, il évolue pas... Enfin, il change, mais il évolue pas tant que ça. Ce qui n'est pas la même chose. Mais pour lui, il va être le dernier homme. Quoi, avec ce que lui considère comme étant des valeurs, etc. Alors que tout se gomme autour de lui, quoi, mis à part que lui, il n'a déjà plus d'essence ni d'existence pour les autres. Mais là, cette impression-là, je vais être le dernier homme, et je vais arriver à sauver ce corps qui se décompose, quoi. Je vais arriver à le refourguer aux responsables, et après à vivre ma vie. Il est un peu là-dedans. C'est bien, on parle de corps en décomposition, puis il y a une mouche qui tourne. Mm-hmm. Parce que les auditeurs l'ont peut-être entendu, c'est très amusant. Il ne parle pas que de sa campagne quand il imagine qu'il va être le dernier homme. Le titre original que l'éditeur a pas voulu parce qu'il trouvait que ça faisait trop long et puis c'est emmerdant après pour être référencé sur Amazon, c'était « Je serai le dernier homme vivant dans la ville qui s'éteint ». Et moi j'aime bien ce titre très long, parce que la ville s'éteint, puisqu'il va vivre à la campagne, et il se considère encore comme, il pense qu'il va être le dernier homme vivant au milieu des usines qui s'éteignent, des grandes enseignes qui passaient 20 heures s'éteignent et donc il n'y a plus rien au centre-ville, etc., etc. Il pense qu'il va être le dernier homme là-dedans, ce qui est une illusion bien sûr.
Est-ce que tu peux nous raconter que tu te sens bien dans ce trou?
Et pourquoi pas? Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi?
Ah oui.
Ah merde. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être! She wore blue. Bluer than velvet was the night. Softer than satin
was the light from the stars. Sur l'influence de Lynch, moi Lynch est un cinéaste que j'aime beaucoup. Sur Blue Velvet, oui, le leitmotiv dans le roman qui est qu'il a une belle maison à la pelouse impeccable. C'est vrai que là, l'image initiale de Blue Velvet m'avait beaucoup marqué, quoi, effectivement. Ces belles maisons toutes alignées à l'américaine, quoi, avec de la pelouse partout, et puis tout qui ronge, et puis on va descendre petit à petit dans la perversion sexuelle la plus crasse dans Blue Velvet. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est un film que j'ai vu assez jeune. Je pense qu'elle est sortie, ce film-là, 86-87, un truc comme ça. J'avais 12-13 ans, quoi. Donc je l'ai vu à sa sortie, je l'ai vu au ciné. Et ça m'avait beaucoup marqué, sans tout comprendre à cet âge-là. Mais déjà visuellement, déjà sur ce que ça voulait dire, hein, la surface et puis ce qu'il y avait derrière, etc. Bon, là, je trouve ça intéressant. C'est vrai que le concept et la question de « on va où ?» est quelque chose de... Je trouve que c'est la seule question viable dans le mode occidental. Quand on entend les discours politiques, quels qu'ils soient, bah, il faut avancer. Ouais, ok, il faut avancer. On sait vers où. Enfin, là, c'est toujours là. Il faut faire des réformes. Oui, mais vers où? Enfin, pourquoi? Enfin, il y a toujours une finalité qui n'est pas évoquée, qui n'est jamais évoquée. Pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi est-ce que je vais au zoo avec ma fille? Je veux lui montrer quoi en lui montrant au zoo? En allant au zoo avec elle? Des félins. Bah, je prends un chat. Enfin, j'ai pas besoin d'aller au zoo. Enfin, tu vois. Puis il sera pas en cage. Il est domestiqué. Bon, voilà. Encore. Bon. Cette finalité qui moi m'étonne beaucoup et me questionne. Qu'est-ce qu'il y a à sauver? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver? Oui, il y a toujours quelque chose à sauver. Enfin, je suis nihiliste, je pense, fondamentalement. Je pense qu'il y a rien. Il y a rien. Il y a rien avant, il y a rien après. Et il y a rien pendant. Mais c'est justement pour ça qu'il y a tout à sauver. Tu vois, moi, je pense fondamentalement que les nihilistes ou les gros pessimistes sont paradoxalement les plus gros optimistes. Parce qu'à partir du moment où tu ne crois en rien et à partir du moment où tu penses que tout est pourri, bah, fais-toi plaisir, quoi. Enfin, carpe diem, quelque part, tu vois. Donc on passe de Blue Velvet au cercle des poètes disparus, ce qui est quand même improbable. Mais je pense vraiment qu'il faut profiter un maximum de cette vie-là, quelle qu'elle soit, quelles que soient nos conditions, avec ce qu'on peut en faire, nous, de façon quelque part très individuelle, mais sans briser l'autre. Et c'est là que vient l'écueil principal de nos sociétés à l'heure actuelle. Qui se disent individualistes, mais qui ne le sont pas, parce qu'on est totalement régi par un système bureaucratique à la stalinienne, quoi. Mis à part, maintenant, c'est les multinationales, c'est plus le Parti communiste, mais c'est pareil, c'est la même chose, qui régissent la vie des hommes et des femmes. Et on dit qu'elle est individualiste, mais elle est individualiste simplement dans le petit degré de liberté qui reste, et qu'on utilise simplement pour faire chier l'autre, et pas pour s'épanouir soi. Alors que l'individualiste, ça devait être « je m'épanouis, j'emmerde personne, et puis mon voisin fait pareil, et puis on emmerde le Parti communiste et les multinationales, enfin, tu vois. » Et bah là, on n'est pas là-dedans, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de choses à sauver, je pense. Il y a tout à sauver, puisqu'il n'y a rien.
Voilà, c'était David Coulon, dont l'excellent roman « Je serai le dernier homme » est en vente dans toutes les librairies, mais aussi sur le net, bien sûr. On retrouve à présent Hubert. Thomas, non, ce n'est pas à vous.
Je vais faire croire à celui qui est en duplex en studio.
Thomas,
je suis avec Bear.
Thomas, on vous entend.
Oui, pardon, pardon, Manuel, oui, j'ai pas compris votre question.
Thomas, c'est à vous.
Bonsoir, Bear.
Bonsoir.
Alors, c'est un plaisir de vous voir. Apparemment, vous transcendez les gens dans des soirées, vous jetez des paillettes sur les gens.
Ouais, c'est un peu le concept, en fait. C'est pour donner une sorte de joie de vie. C'était un peu le but de ce genre de soirée-là, faire quelque chose qui se ressemblait pas pour attirer un maximum de gens. Et puis, c'est comme ça qu'on a aussi attiré un public de tous les âges, surtout. C'était ça qui était important pour nous.
Est-ce qu'il y a des milliers de gens qui vous suivent ou pas dans ce mouvement? Ou est-ce que c'est quelque chose où tu penses que ça va devenir quelque chose d'énorme?
On était une toute petite équipe. On a commencé, on était très petits. On commence à se multiplier, là, au fil du temps. temps, au fil des semaines, au fil des mois aussi. Et puis on espère que ça va se démocratiser, entre guillemets, parce qu'on a envie justement d'accueillir un maximum de monde. Donc ouais, on espère qu'on sera une grosse équipe et qu'on pourra accueillir encore plus de gens, quoi.
On s'aime, on se laisse des paillettes, c'est beau, quoi.
Bah oui,
c'est beau.
Sur les temps qui courent, ouais, c'est important de faire ce genre de choses. Ça donne vraiment de la joie pour les gens et c'est ce qui nous importe le plus, je pense.
Vous voyez, Emmanuelle Béa, voilà ce qu'elle dit, voilà, c'est beau, c'est sincère, c'est comme ça, c'est limpide. Elle envoie des paillettes, elle envoie de l'amour et c'est beau.
Thomas, je crois que vous êtes toujours sur les quais. Je suis quant à moi dans l'espace VIP de mon duplex et devinez sur qui je tombe, hein, qui tape l'incruste. Eh bien, je crois que c'est Béa que vous cherchez partout.
Oui.
Ne la cherchez plus, elle est à mes côtés.
Oui, bonsoir.
Je comprends pas là, c'est quoi cette supercherie ?
Eh oui, elle est avec moi, en studio.
Oui, tout à fait.
Vous ne m'avez rien dit, elle était avec vous en studio, c'est ça que vous êtes en train de me dire.
Par contre, je vous laisse tout de même poser les questions que vous souhaitez à notre invité. Allez-y, Béa vous écoute.
Béa ?
Thomas, c'est vous ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ? Ça se passe bien ?
Eh bien écoutez, oui, beaucoup de plaisir d'assister à cette émission.
On se voit après l'émission ? Attends, ça c'est pas la bonne fiche, pardon.
Vous êtes coquin quand même.
Où est-ce que j'ai mis mes fiches, bordel ?
Oh, écoutez, je ne saurais répondre à cette question.
Excusez-moi, Thomas, de vous couper, je voudrais poser une question à notre invité. Pensez-vous que la vie est un multiplex ?
Je pense que la vie est une sorte de maison avec des fenêtres, des portes, des invités. Alors selon les vies des personnes, ça peut être un studio, un T2, un T3, et parfois, oui, un multiplex pour les plus chanceux d'entre nous.
La vie en multiplex. La vie en multiplex. La vie. Principe actif. C'est la vie. La vie en multiplex. C'est la vie.
Allô Hubert ?
Allô, Emmanuel, je vous entends de toutes mes oreilles. J'ai un rendez-vous avec un artiste peintre, Thomas Petit. Je vais te laisser présenter, allons-y, présente-toi.
Eh bien oui, alors moi je m'appelle donc Thomas Petit, je suis artiste, et puis je dois avoir quelque chose comme 50 ans, et puis je suis habitant donc de Rouen. Je suis vraiment dans une phase où j'ai un petit peu recentré mes préoccupations artistiques. Et là, je tourne vraiment autour du portrait, mais quasiment, je dirais, au sens classique du terme, tu vois. Des trucs vraiment dépouillés, avec pas d'autres sujets que les sujets eux-mêmes. Je me rends compte que j'ai envie de moins en moins de faire ressortir des trucs. Il y a des gens qui, visiblement, n'ont pas du tout la même conception de l'expression artistique, hein, qui, visiblement, savent très bien où ils veulent aller, qui ont un discours derrière, qui est vachement structuré, qui est vachement important. Ils ont des choses à dire. Alors, je trouve pas du tout que ce soit idiot de faire ça, hein, mais je pense que, vraiment, s'il y a bien un domaine où tout le monde peut faire comme il veut, comme il peut, c'est bien l'art. J'ai de moins en moins envie d'expliquer pourquoi, comment, etc. Et puis, j'ai l'impression que je suis de moins en moins en capacité de le faire. En tout cas, ce que je me suis rendu compte, c'est que me libérer des éléments de contexte ou de discours, c'est une manière pour moi, je pense, de me concentrer plus sur des problématiques de peinture. Et je me suis donc posé ces questions-là il y a peut-être un an et demi, en me disant, mais en fait, je fais quoi, moi ? Qu'est-ce que je fais ? Bah ouais, je fais du portrait. Est-ce que j'ai besoin ? Est-ce qu'il y a nécessité ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de perturbation dans le fait d'intégrer des éléments qui sont secondaires par rapport au sujet lui-même, qui pour moi est le portrait, quoi.
Je trouve que ça serait marrant de te proposer de te présenter sous une forme un peu différente, en te demandant par exemple déjà si t'étais un prénom, ça serait quoi ?
C'est marrant que tu me poses cette question-là parce que ce matin j'ai signé des toiles que je venais juste de finir, qui n'avaient pas encore été signées. En fait, moi je ne signe mes toiles que par mon prénom. Et alors c'est fait de manière complètement involontaire, mais l'autre jour j'ai un copain peintre qui m'a dit, mais tu te la racontes quand même méchamment, parce que il y en a un autre qui faisait ça, c'était Van Gogh. Et c'est vrai, quoi. C'est vrai que Van Gogh signait juste Vincent. Mais c'est pas du tout pour ça que moi je signe juste Thomas. Hein. C'est parce que ouais, c'est mon prénom, c'est moi. Ouais.
Si t'étais un âge,
je te dirais que si j'étais un âge de la vie humaine, je serais à la cinquantaine. C'est mon âge. Pourtant, c'est un âge avec lequel j'ai finalement quand même pas mal de difficultés. Moi, j'aimais bien quand j'étais jeune. Mais quand j'étais jeune, je trouvais déjà que j'étais trop vieux. Donc c'est tout le temps comme ça, en fait. J'ai l'impression que quel que soit l'âge, je vais toujours trouver que je suis trop vieux. Mais en fin de compte, quand j'ai dépassé cet âge-là, je me disais, mais en fait, j'étais pas si mal à cet âge-là. Donc c'est sûrement que je dois être bien à cet âge-là, quoi. Donc ouais, mon âge, ça va, quoi.
Si t'étais un tableau ?
En ce moment, c'est curieux, je me suis fait vraiment interpeller par un bouquin d'Olivier Rollin qui s'appelle Un chasseur de lions. La trame de l'histoire, ça se base sur un tableau de Manet où il a peint un type qui s'appelle Pertuiset, qui était un chasseur de lions. Et bah, tu vois, pendant tout le temps où je lisais ce bouquin qui était vraiment passionnant, bah, je pense que si j'étais un tableau, j'aurais été ce chasseur de lions que Manet a peint. Et il y a plein de tableaux de lui qui m'ont vraiment fasciné ces temps-ci. Notamment, par exemple, il a fait un tableau de ses parents. Tu vois, je pense à ça parce que moi, j'ai le projet là de faire un tableau avec mes parents.
Si t'étais une machine.
Oh là là, si t'étais une machine. Alors là, de but en blanc comme ça, je te répondrais, si t'étais une machine, je pense que je serais un télescope. Parce que ça, c'est un truc aussi qui me passionne carrément. T'as l'aspect purement contemplatif, c'est-à-dire visuel, tu vois, de voir les choses. Un truc comme les anneaux de Saturne, par exemple, mais tu tombes, quoi. Hein. C'est vraiment fou de voir les trucs comme ça, ou des tâches, les satellites de Jupiter, ou les pôles de Mars, enfin, tu vois, tout ce qui est nébuleux. Enfin, en tout cas, tout ce qui est le truc un peu primaire, genre ce que tu vois, vraiment, tu vois. Et puis derrière, il y a tout ce que ça amène comme question, justement, ouais, existentielle et tout ça. C'est des trucs qui peuvent vite te filer le tournis, voire qui peuvent vite te faire peur.
Si t'étais un animal.
Ah, si j'étais un animal, ouais, je pense que je serais un chien. Je trouve qu'on est liés aux chiens, nous les hommes, vraiment. Hein. J'ai entendu des trucs carrément incroyables d'ailleurs aussi sur le rapport qu'on pouvait avoir avec ces animaux-là. Et des trucs, alors je sais pas si jamais je pourrais retranscrire vraiment ce truc-là, mais j'ai entendu dire que si on parlait, c'était à cause des chiens, enfin grâce aux chiens en fait. Parce que le fait qu'on ait domestiqué les chiens et qu'ils nous aient servi de nez pour dépister des trucs, hein, ça a permis que nous, on utilise notre nez pour autre chose que pour sentir, et notamment à le faire régresser de manière à ce qu'on s'en serve pour pouvoir parler. Et que donc l'apparition du langage chez l'homme serait liée, ouais, à la domestication du chien. J'ai un berger allemand à la maison, et en fait j'ai choisi ce chien-là parce que j'en avais peur. Je me suis dit, bon, le meilleur moyen pour ne plus avoir peur du berger allemand, c'est d'en avoir un. Je me suis dit, bon, quand je vais le prendre et que ce chien aura 2 mois, il ne me fera pas peur. Et puis bon, voilà, quand il va grandir, je vais m'y habituer. Quoi, non.
Pour finir, si t'étais un arbre.
Ouais, je sais pas pourquoi je répondrais à ça, mais je pense que je serais un chêne. Mais je sais pas pourquoi je dis ça. Ce qui est marrant, c'est que il y a une question que tu m'as pas posée, à laquelle j'aurais pu répondre. Tu m'as pas demandé si jamais j'étais une couleur, qu'est-ce que je serais comme couleur. Tu vois, c'est marrant. Hein, bah, je serais du jaune, qui est ma couleur préférée. Et c'est assez bizarre parce que c'est une couleur qui est assez mal considérée. Le jaune, elle est très connotée défavorablement. Le jaune, c'est la couleur des cocus. Le jaune, c'est la couleur des casseurs de grève. Dans l'histoire syndicale, par exemple, quand t'es un jaune, c'est que t'es un casseur de grève. Les fous, au Moyen-Âge, ils étaient habillés de jaune, tu vois. Et puis l'étoile qu'on a collée sur la poitrine des juifs, elle était bien jaune. Tu vois, c'est une couleur qui a pas bonne réputation. Alors, initialement, je crois que c'est parce que elle était constituée, tu vois, au début, quand on voulait la reproduire, elle était constituée par des pigments qui n'étaient pas stables. Un peu comme le vert d'ailleurs, je crois aussi, qui pendant très longtemps n'a pas non plus eu très bonne réputation, le vert, parce qu'il était assez instable. Actuellement, dans notre époque, la couleur qui fait foi, c'est le bleu. Le bleu, tout le monde est d'accord avec le bleu, elle est très consensuelle. Le bleu, tu vois, ça fait pas peur, le bleu. Tu vois, le rouge peut faire peur, parce que ça peut être, tu vois, rattaché à certains courants politiques, le côté un peu violent, le côté... Alors, le vert, en ce moment, il revient en force, parce que avec tout ce qui est préoccupations écologiques, tu vois, on se rend compte que des gens récupèrent le vert. Et alors, c'est marrant, parce que en tant que peintre, je sais que j'en avais parlé une fois avec un type qui me disait, oh, le jaune, c'est vraiment chiant, c'est une couleur qui est vraiment dure à traiter, parce que... quand on la mélange avec d'autres couleurs, elle peut vite devenir un peu terreuse, un peu sale. C'est une couleur qui a la réputation d'être difficile à manier, le jaune. Mais moi, c'est une couleur vraiment que j'aime vraiment beaucoup.
Thomas, il est temps de reprendre notre chemin. Merci pour ce jeu avec ces questions insolites.
Ben, merci à vous. Hein. C'était vraiment, vraiment sympa de partager ce moment-là avec vous, de discuter de tout ça. C'était vraiment bien. Quoi.
La vie en multiplex. La vie en multiplex. La vie. Principe actif, c'est la vie.
H-D-R.
La vie
en multiplex.
C'est la vie.
Écoutez. Vous entendez ? Vous entendez la chanson ? Je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez moi, j'entends mes voisins. J'entends la musique de mes voisins, et parfois j'entends si fort que j'ai l'impression de déranger, comme là tout de suite. Alors je me mets à chuchoter chez moi, comme s'ils pouvaient m'entendre. Bon, je crois que Philippe habite dans un bel appartement, dans un quartier plutôt cool, et il m'a jamais parlé de problèmes comme ça. Et ce soir, je crois qu'il est parti, et il va tenter de dormir chez lui.
Emmanuel, je vais donc dormir chez moi, et redécouvrir ma rue, là où je vis. Tenter de me réapproprier mon environnement urbain.
Fais comme si c'était la première fois que tu arrivais chez toi. C'est ça ce qu'il faut, c'est de redécouvrir sa rue, de se réapproprier son univers, son existence. Bah décris-moi ce que tu vois.
Je passe devant des arbres auxquels je n'avais jamais fait attention.
Ouais. Le couloir. Personne, pas de chien qui crie, hein, pas de chien qui aboie. Vous arrivez chez vous, là. C'est bien votre étage, hein, vous êtes certain.
Je sors de l'ascenseur comme un nouveau-né et me dirige vers chez moi.
Vous m'avez l'air tout tourneboulé.
Je sonne.
Faites ça doucement.
Il n'y a personne, apparemment. Mais c'est pas grave, j'ai la clé.
Ne cassez pas la serrure. Doucement, Philippe, vous me faites peur. Calmez-vous. Voilà.
J'allume la lumière.
Détendez-vous, Philippe. Respirez.
Il y a un miroir. Je me vois. J'ai envie de me dire bonjour. Je me tends la main. C'est étonnant. Nos mains sont tendues.
Calmez-vous, ok ?
Je n'arrive pas à rentrer en contact avec moi-même.
Vous n'êtes pas tout seul, je suis là. Les auditeurs sont là. Ils vivent aussi, ils ont leur propre vie. Hein, on est tous ensemble en multiplex, en train de partager la même expérience qui est celle de l'existence. Et j'appelle à présent tous les auditeurs de cette émission à faire en sorte que nous changions d'existence immédiatement. Arrêtons de vivre en multiplex, vivons de façon simplex et allons sans complexe sortir dans les rues. Faisons la grosse folie, pas besoin de BA pour nous ambiancer avec des paillettes. Non, le dawa, on peut le mettre nous-mêmes. Donc on va tous sortir, si vous écoutez cette émission en voiture sur vos autoradios, bien, vous arrêtez tout de suite hein, sur le bas-côté, hop, vous descendez et vous vous mettez à danser, à faire du bruit parce qu'on est dans le final de l'émission, c'est la libération, on n'a plus besoin d'écouter cette émission, libérons-nous de nos chaînes, vivons dépoitraillés, vivons heureux et chantons la liberté d'être, tout simplement. La vie en multiplex, c'est fini. Pour ce direct, je vais tout de suite dans la rue pour vous retrouver des auditeurs et on file faire la teuf. A tout de suite. Du studio, voilà, je suis en duplex avec vous toujours. Il y a une ambiance très très étrange. Je sais pas si c'est vraiment ce que je crois. Si c'est ça, c'est génial. Est-ce que tous les auditeurs qui nous écoutaient en autoradio klaxonnent comme des fous? C'est peut-être ce qui se passe. Attendez, en face de moi il y a Philippe. Philippe,
qu'est-ce que vous faites là? C'est inimaginable. On a peut-être fait un truc de fou là, Philippe. On a peut-être fait un truc de dingue. Je sais pas, là je me demande si on n'a pas fait une grosse connerie. Je me sens tellement énorme.
Cette émission est un succès, faut le dire.
Et la révolution, hop, c'est pour demain. Hein. On peut y croire maintenant. Quand je vois tout l'engouement des gens qui sont heureux d'être arrivés en finale, je repense au début. Au début, c'est vrai, on savait pas si on irait au bout. Vous vous souvenez, il y avait Thomas qui n'arrivait pas à joindre Béa. Ça partait un peu en pot au saucisson. Et puis,
mis en difficulté au départ, ouais.
Ouais, et puis au final, on a eu une montée en puissance de l'émission. Et bam, ça explose, quoi. On a envie de ça, on a besoin de ça.
Est-ce que vous pensez qu'on serait arrivé à cette finale?
J'y croyais pas trop, j'avais un peu peur. C'était hyper difficile, mais on s'est bien rattrapé.
On est en finale!
Je te rappelle, Polo, j'ai un truc important, je t'expliquerai.
Vous êtes en duplex?
Les auditeurs sont là, moi je suis là en tout cas, bravo, bravo aux auditeurs.
Emmanuel?
Non, mais il a tout dit, les auditeurs sont là.
Allez, on y va!
Alors on est en finale de l'émission, mais ce n'est qu'un début. Dans quelques semaines, dans quelques mois, vous retrouverez une autre émission de La Vie en Multiplex. C'était Emmanuel Autréamont. J'étais entouré pour cette émission de Philippe Régnier, qui l'a bien cornaqué avec moi. Il y avait également Thomas, Hubert, on a eu Béa, qui nous a beaucoup aidés. Bien sûr, nos invités, Olivier Renaud, Thomas Petit, David Coulon. Remercions tous ces gens sans qui bien, le final ne serait pas le magnifique feu d'artifice qu'il est à présent. Et puis bien sûr, merci à vous tous, amis auditeurs, qui chantaient actuellement, donc qui ne nous écoutaient plus, qui écouteraient peut-être l'émission en podcast, car tout ça n'aurait pas été possible sans vous. On vous aime. Salut tout le monde, portez-vous bien, soyez heureux.
On a gagné, c'est fini, maintenant on a fini.
Je crois qu'on est en train de me piquer ma bagnole. Putain, c'est quoi cet enculé?
La vie en multiplex. La vie en multiplex. La vie. Principe actif. C'est la vie.
HDR.
La vie. C'est la vie.
Ce final de l'émission a suscité énormément de messages et même au-delà des frontières, en témoigne notre répondeur. La vie en multiplex depuis la Catalogne avec la réaction d'un premier auditeur.
Hey, hola, Nicuc, i soc de la Pobla de Lillet, un poble del nord de Catalunya. Molt bonic. Gaudeixo moltíssim escoltant La vie en multiplex. Aquest espectacle és brutal, magnífic. Sobretot la part final. Espero i desitjo escoltar-ho una altra vegada. Apa-li. Adéu.
La vie en multiplex, très écoutée également depuis la Chine, avec cette auditrice très enthousiaste.
你好，我是来自中国的苗苗，我很喜欢听法国的电台 La vie en multiplex. 这个电台非常棒哦，然后我很希望期待下一次的电台之声。再见。 Bye bye.
Depuis la Tunisie, un autre auditeur de La vie en multiplex.
Asema, Mahmoud Bakhrouf, de Skofel Marsa, de Tunis. La vie est un multiplex. Merhaba bikoum fi Tunis, waqti tahbou Igeo. Rahbou bikoum al akhir, w Tunis ray tayra al akhir, w li tahbou ntouma, w tasahrou tamlou li tahbou, w tchikhou, w Tunis ray tfattaq al akhir. W merhaba bikoum fi koul waqt.
Fin des nouveaux messages. Merci de raccrocher.
Moi j'ai passé une heure formidable, Philippe. Merci.
On va rendre l'antenne maintenant.
Oui, à bientôt pour la suite de nos existences. À tout de suite, en fait. Ça continue, ça s'arrête pas.
Et le spectacle continue.
Principe actif.
HDR.
Fin du spectacle.
Le mix des cultures.
Plus personne, ni dans les coulisses, ni sur la scène. Sauf toi.
Et le spectacle continue, une émission à retrouver chaque premier samedi du mois de 12h15 à 13h15 sur l'antenne de Principe Actif et le troisième samedi du mois de 17h à 18h sur Radio HDR. Et pour terminer, voici une sélection musicale. On commence par Brigitte Fontaine avec une version alternative de son titre Le Beau Temps, tiré de Pick Up Face B inédit et remix, paru à la fin de l'année 2025.
Ils appellent ça le beau temps. On sera comme des harengs. Grillés, carbonisés. Des crêpes mal formées. Ils appellent ça le beau temps. Ce potage bouillant. pourtant grand de souffrir à blanc. Vive les barbecues. Partout, thank you,
C'était Le Beau Temps par Brigitte Fontaine sur l'antenne de Principe Actif et Radio HDR.
Camarades, résistons. L'heure a sonné de réveiller les morts.
Histoire d'amour par le groupe Soviet Suprême qui fête ses 10 ans. Un prochain album est prévu mars 2026, comme annoncé sur leur site.
Allô, Emmanuel, Philippe, vous me recevez? C'est Emmanuel, je suis avec Philippe. Vous êtes là? Allô, allô? Ouais, écoutez, nous on est sortis du studio et franchement dehors, la vie se trouve dehors. Le temps est complètement différent du studio. En studio, c'est la prison, c'est la pression. La vie est cool, la vie est belle. La vie est un petit chamallow qui fond. C'est une définition de la vie qui se discute, je ne suis pas sûr qu'elle soit adaptée à ce petit enfant qui crie derrière nous.